parler de l'acceptation, oui. L'acceptation de ta pathologie, la connaissance de ce droit, le frein à cette acceptation, est-ce que c'est la reconnaissance administrative? On va parler aussi de la compensation numérique, est-ce qu'elle peut remplacer l'aide humaine? Est-ce qu'il y a une compensation idéale et une compensation raisonnable? Mais je te réexpliquerai un peu cette vision pour que tu m'éclaires, en tout cas sur ta vision à toi. Et est-ce que la compensation numérique doit être formée ou, et puis de parler aussi de ton expérience sur le programme Solidarité Université qui a été mis en place par l'UTC et puis dans l'association Full Inclusion, que tu bénéficies en tout cas dans la prise en charge pour que tu puisses en tout cas nous donner ton retour.
D'accord.
Et tout ça, bien sûr, sert dans le cadre du mémoire, mais aussi dans le podcast pour aider d'autres jeunes. Voilà, voilà. Donc, okay. Je te laisse commencer.
D'accord. Bah, moi, c'est Dalo, j'ai 24 ans. Mon parcours scolaire, j'ai commencé un parcours primaire, élémentaire, ordinaire. Je suis allée à l'école dès l'âge de 4 ans, vu que ma pathologie me demandait d'être à l'hôpital et tout, jusqu'à 4 ans. Ensuite, j'ai intégré l'école élémentaire avec un suivi d'un PAI pour une personne. C'est un protocole d'accompagnement individualisé pour les personnes en situation de handicap en école élémentaire primaire. Ensuite, j'ai continué le collège qui était à côté de chez moi, que c'est plus adapté. Enfin, mon père, il a fait la demande à la mairie pour que je puisse avoir un collège plus près de chez moi à cause de ma pathologie. J'ai été diagnostiquée dyslexie et dysorthographique, donc j'ai dû faire de l'orthophoniste de la 6e à la 4e. Même j'ai eu des difficultés, j'avais des difficultés à l'écrit, à l'oral. Du coup, pendant la fin de 4e, j'ai été orientée dans un établissement adapté, un EREA, par le conseil d'une infirmière du collège. Je suis rentrée là-bas en quatrième jusqu'à ma terminale. Finalement, j'ai fait des stages, j'étais en gestion administration, j'ai eu mon brevet, puis j'ai continué jusqu'à la terminale. Après ça, j'ai obtenu mon bac pro. Dès que j'ai fini mon bac pro, je me suis orientée vers un BTS. Là, ça a été plus difficile parce que je rentrais dans le monde du travail. C'était en alternance, forcément. Et dès les entretiens, au début, je disais pas que j'étais une personne RQTH. Et même, je l'avais pas déclaré. J'avais pas fait la demande à la MDPH. J'avais pas fait forcément la demande. Ensuite, je faisais... je suis perdue.
Non, c'est bien.
Voilà.
Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'accepter, la pathologie, l'acceptation. Comment tu as accepté ta pathologie quand tu as été diagnostiquée, puisque tu as deux pathologies, tu as une pathologie dyslexie dysorthographique et puis une autre sur la motricité qui te donne une difficulté de te déplacer,
ouais.
D'où tu as demandé des droits, où tu as bataillé et on en reviendra dessus. Ouais. Mais cette acceptation, quand tu as eu, quand tu as dit... voilà, votre pathologie, c'est ça. Est-ce que pour toi, ça a été un soulagement de pouvoir te dire on reconnaît ce que je suis et en fin de compte, je ne suis pas quelqu'un qui a une mauvaise volonté en cours ou quoi que ce soit. C'est vraiment ma dyslexie, c'est vraiment une pathologie vraiment reconnue. Ou est-ce que c'était plutôt je ne me reconnais pas dans cette pathologie, quoi.
Bah, tout d'abord, quand j'étais petite, on a... diagnostiqué à mes parents, bon, j'étais hémiplégie droite, mais après moi j'ai pas ressenti ça, mais je savais que j'avais d'autres difficultés, mais on n'avait pas étiqueté ça. Enfin, quand j'étais chez l'orthophonie, c'est après que j'ai fait des examens plus approfondis avec une ergothérapie et une orthophoniste dans l'établissement où j'étais à l'EREA. C'est là qu'on m'a diagnostiqué dyslexie dysorthographique. Et ça m'a soulagée parce que pour moi, je faisais pas des fautes volontaires ou je j'écrivais pas. En fait, c'était pas, je le faisais pas exprès. Et les gens, ils pensaient que j'en jouais, en fait, du fait que déjà j'avais cet handicap-là et que j'en jouais à la façon comment j'écrivais, comment je m'exprimais aussi. Et dès qu'on m'a mis les mots sur comment j'étais, ça m'a soulagée dans le sens où je peux dire, ah voilà, maintenant je peux vous prouver que je fais pas semblant.
Et quand tu as accepté ta pathologie, est-ce que ça a été un soulagement d'avoir mis un mot sur ça
Oui, tout à fait. Ça m'a soulagée dans le sens où psychologiquement déjà, ça me permet d'avancer déjà, de me dire « Ah bon, j'ai ça, mais d'accord, c'est pas un souci. Je vais prendre avec et je vais avancer avec et je serai accompagnée par des gens forcément à l'école » ou dans mon parcours professionnel, et ça n'a jamais été un frein pour moi, au contraire.
D'accord. Et donc, on en revient, puisque tu dis que tu demandes, c'est là où tu vas chercher de l'accompagnement, et c'est donc la connaissance de ses droits. C'est vrai que quand on est en situation de handicap, alors on est soit en situation de handicap depuis son enfance, et à ce moment-là, c'est les parents qui prennent en charge, en tout cas.
Exactement.
Et c'est eux qui se retrouvent dans la joie de l'administration.
Exactement.
Et de connaître ses droits. Et puis, on a aussi quand on est adulte,
oui,
et qu'on fait ses reconnaissances. Toi, tu as pu, en tout cas, avoir les deux, puisque c'était apparemment ton papa qui faisait toutes ces démarches.
Oui.
Pour toi, est-ce que ton papa avait ses connaissances de ce droit, enfin, ses connaissances des droits d'accompagnement que tu pouvais avoir, c'était facile d'accès pour lui ou est-ce que pour lui c'était difficile?
Au début ça a été difficile parce que sachant que mon père c'est une personne qui sait pas trop lire ni écrire, du coup ça a été difficile. Il a été orienté par les infirmières d'école, leur dire, et moi j'étais jeune, j'avais des difficultés à lire et écrire comme je te l'ai dit, donc ça n'a pas été évident au début, le fait d'aller faire les démarches à la mairie, à la MDPH, ensuite remplir les formulaires, enfin, avoir les droits, les accès. Des fois, on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas nos... Il faut aller s'informer et ça a été difficile pour lui. Jusqu'à l'âge de mes 21 ans et pour eux, la MDPH, à partir de 21 ans, tu es adulte et tu n'es plus rattaché à tes parents parce qu'avant 21 ans, mes parents, ils percevaient... une certaine somme à cause de... liée à mon handicap. Donc, ils ont coupé à 21 ans. Et à partir de là, pour eux, je ne suis plus une personne en situation d'handicap. Et c'est difficile, ouais.
Alors, quand c'est comme ça, en règle générale, tu as une compensation qui est mise en place financière pour les parents.
Oui.
C'est l'allocation enfant, l'APSH, je crois que c'est ça. C'est l'allocation pour les enfants, en tout cas en situation de handicap.
Oui.
Et donc, en fonction du coût que la famille vit, enfin, au niveau Exactement. Des impôts, la CAF, en tout cas, leur rétribue.
Oui.
À partir de 21 ans, c'est vrai que tout change.
Hein, oui.
Vous rentrez dans le grand monde.
Oui. Vous êtes des adultes.
Voilà. Et quand c'est comme ça, et ben, l'inconvénient, c'est que vous devez refaire toutes les démarches.
Exactement.
Et vous devez demander une AH. Mais sauf que toi, tu étais en alternance.
Oui.
Donc, tu ne peux pas...
Non, j'avais pas le droit.
AH, mais tu ne peux pas bénéficier de l'aide financière, ouais, en tout cas.
Exactement.
Voilà.
J'avais que la reconnaissance RQTH. Et vu que j'étais en alternance et je percevais des ressources, ils ne pouvaient pas me donner la AH vu que j'étais en activité professionnelle.
Bon, sachant que la AH, on est sur des 800 euros.
Oui, voilà.
C'est très faible.
Hein. Ouais, c'est pas...
Ça aide, hein, comme on dit, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que la connaissance de ses droits, je trouve qu'elle est quand même importante parce que même si on nous dit qu'on est sensibilisé à la connaissance des droits, qu'on vous donne les informations, je trouve que vous n'arrivez pas, les jeunes n'arrivent pas en tout cas à se l'approprier. Tant qu'ils sont vraiment pas dans une situation, on va dire, où ils en ont tellement besoin.
Ouais.
Par exemple, le prêt d'un ordinateur, des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le moyen de se payer un ordinateur.
Non.
Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que vous vous obligez à faire ça. Et donc, ce qui fait que c'est là où on se pose la question, est-ce que, en fait, le frein à l'acceptation c'est la reconnaissance, le frein à l'acceptation, est-ce que c'est la reconnaissance administrative par sa lourdeur, en fait, de faire les paperasses et tout ce qui s'ensuit, et voilà, ou est-ce que c'est je n'accepte pas ma pathologie parce que je ne veux pas me reconnaître dans cette société en situation de handicap, j'ai une pathologie, ou je ne considère pas mon pathologie, et je veux être reconnue, ou je ne me considère pas être reconnue dans la société dans le cadre du handicap.
Moi, au début, vers 21 ans, comme je vous ai dit, je voulais pas du tout me reconnaître une personne en situation de handicap. Je voulais aller dans le monde du travail, commencer mon alternance comme tout le monde. Enfin, mais après, j'ai vu que j'avais des difficultés. Par exemple, dans les missions qu'on me donnait, j'avais pas forcément les adaptations. Et j'en ai parlé au référent handicap qui m'a, lui, conseillé de me déclarer en tant que personne travailleur handicapé, qui va me permettre d'avoir une certaine accessibilité et une souplesse dans mon travail, un soulagement, et c'est ça qui m'a permis, qui m'a ouvert l'esprit dans le sens où qui m'a dit, bon tiens, cette demande-là, certes tu vas être stigmatisé, tu vas être étiqueté, mais c'est pour ton bien et fais-le pour toi, sinon tu t'avanceras pas dans la vie, tu auras toujours des freins, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours professionnel.
Donc, si je reformule pour toi, en fait, c'est que cette reconnaissance administrative, tu l'as fait parce que tu souhaites obtenir des choses pour que ça ne pénalise pas ta vie sociale et ta vie professionnelle.
Exactement, voilà. Plutôt la vie professionnelle.
Ok. Alors, on va parler de la compensation, puisque voilà. Donc, tu as pu bénéficier en tout cas de compensation, tu as eu des accompagnements, tu as eu un accompagnement Cap Emploi, tu as eu un accompagnement avec ta référente handicap de l'école, tu as eu pas mal de choses.
Ouais.
Et alors, quels sont les points positifs et négatifs, et qu'est-ce que tu trouves qui pourrait, dans le cadre de la compensation, par exemple, humaine, parce que voilà, tu as la compensation humaine, tu as la compensation technique. Qui ont été ces éléments, quoi.
Bah déjà, les compensations humaines, c'est très enrichissant dans le sens où on est accompagné par une personne qui a déjà parcouru son parcours professionnel, qui s'y connaît dans le monde professionnel, qui peut vous aiguiller qui est là pour t'accompagner du début à la fin, qui va pas te laisser dans le flou. Qui est là pour te dire si tu as des questions, elle est là pour répondre à tes questions et t'aiguiller. Je me perds là.
Non, continue,
t'es
très bien.
Et t'aiguiller dans ton parcours professionnel. Moi, au début, je savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est en parlant avec mon conseiller, mon référent handicap, qui m'a dit que j'étais très bon à l'oral, que j'avais une très bonne aisance et que ce serait pas mal que je m'oriente dans les ressources humaines. Je suis partie au CNAM faire des recherches, enfin sur Internet, voir ce que c'est les ressources humaines, ce qu'ils proposent et ce que moi je veux faire exactement. Et j'ai vu que ça combinait, j'ai dit pourquoi pas essayer la licence et maintenant j'ai réussi, voilà. Et après, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait aussi une compensation numérique dans le sens où maintenant la jeunesse, l'innovation, on est beaucoup sur nos ordinateurs, beaucoup sur les tablettes, les ordis, les portables, et le numérique c'est très important pour, je pense, personnellement pour moi le numérique c'est important parce que en cours, je sais qu'en cours je peux pas écrire. J'ai très difficilement de prendre les notes, c'est pas facile pour moi. Donc le numérique, c'est indispensable pour moi, pour prendre les cours, pour écrire, pour même faire mon mémoire. J'ai eu accès à beaucoup de compensations, des extensions qu'on m'a montrées grâce à l'association Full Inclusion. Franchement, c'est ce qui m'a aidé sur mon organisation, ma méthodologie de travail, et ça a bien été. Et pertinent.
Ok, t'as enclenché directement la deuxième question. Donc, dans les compensations numériques, comme tu en as parlé avec le programme Full Inclusion que j'ai créé, on a mélangé, c'est vrai, l'être humain, la technologie en même temps, on a mélangé aussi la gestion d'organisation.
Exactement.
Et on a parlé aussi beaucoup d'acceptation, on a eu beaucoup d'échanges sur ça. sur l'acceptation. Et puis tu as eu la possibilité d'échanger avec Léa, Amina aussi, pour travailler.
Exactement.
Avec des méthodologies d'organisation de travail. Oui. Qu'est-ce que tu dirais alors sur la partie numérique, sur la partie des ateliers de l'acceptation et les ateliers où tu étais plutôt avec Léa et Amina sur le travail?
Tout d'abord, quand j'ai commencé les ateliers, j'ai commencé tout d'abord avec la rencontre avec Cindy. Enfin, dès le début, en fait, elle a eu le contact humain de me rencontrer dans un café, tout bêtement, et c'est ça que j'ai aimé. Je veux pas le côté, enfin, elle est venue, elle m'a rencontré, c'est pas le côté cadré, on va à l'école et structuré. On a parlé, on a discuté, enfin, elle m'a mis à l'aise, et je lui ai parlé de mes difficultés, elle en a pris note, et une semaine après, on a pris rendez-vous, elle m'a montré des outils de travail qui m'a permis d'être plus structurée, vu que j'avais dit que j'avais des problèmes d'organisation sur mon travail, la structure, la norme et tout. Et elle m'a donné des outils de travail, que ce soit des outils numériques, des outils humains. Aussi, quand je dis humains, c'est des personnes comme Léa, qui m'a beaucoup aidée dans la structure de mon mémoire, qui a été là du début à la fin, dès que j'avais des questions. Je n'hésitais pas à venir vers elle, elle était très ouverte à répondre à mes questions et je l'en remercie énormément. Ensuite, j'ai aussi le côté, on va dire, le côté data analyse avec Amina, qui m'a beaucoup aidée dans la structure de mon questionnaire sur la méthodologie, la trame de travail, la structure de mon questionnaire du début à la fin, la forme des questions, comment me dire, comment faire... comment dire ça?
C'était la question ouverte.
Oui, les questions semi-ouvertes et tout. Elle m'a beaucoup donné des petits outils. Ou même faire les résumés des questionnaires, les comptes rendus. Et elle m'a beaucoup aidé à faire la conclusion aussi. Le retour des questionnaires, c'est elle qui m'a montré des petits outils de méthodologie, de retour de questionnaires. Vous savez, quand on a un questionnaire, on doit faire le résumé. Et c'est grâce à Amina que m'a donné des petites méthodologies. Ensuite...
Est-ce que tu as retrouvé ça, par exemple, quand tu étais à l'école? Parce que c'est vrai qu'à l'école, on vous prépare normalement, soi-disant, pour votre mémoire.
Exactement. Pas du tout. Bah, à l'école...
Voilà. Est-ce que c'était pour toi différent, en tout cas, cette méthodologie-là, et elle te correspondait plus? Ou parce que déjà, c'est des jeunes qui sortent de leur scolarité,
qui s'y connaissent.
Voilà.
Tout à fait, parce qu'en plus j'avais des cours individuels, c'était que concentré sur moi et du coup c'est ça qui m'intéressait. Je pouvais lui dire, j'hésitais pas à lui dire, j'ai des difficultés sur ça et on prenait le temps de travailler dessus et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ces cours, de prendre le temps d'expliquer, de prendre le temps de montrer de plusieurs méthodologies de travail. Par exemple, on avait des documents partagés. Au début, je connaissais pas forcément des documents partagés. Quand j'avais des questions, je laissais un message à Amina ou à Léa sur le document partagé. Et elle me répondait peut-être le soir même ou le lendemain. Et moi, je continuais mon travail en même temps sur mon mémoire. Et c'est ça que j'ai aimé. Ça m'a pas freinée dans le sens où je continuais mon mémoire, mais si j'avais des questions, je savais vraiment à qui m'orienter et j'avais la réponse d'ici 24 heures. Et c'est ça que j'ai aimé à la méthode de travail.
Surtout que tu as travaillé beaucoup en hybride.
Exactement.
Tu as travaillé avec moi sur toute la partie numérique, sur du présentiel, mais après, tu as fait du distanciel. Et par contre, avec Amina et Léa qui étaient...
Oui.
Amina n'était pas très loin de toi. Léa, un peu plus grand, c'est le fin fond du 95. Et en fait, donc, l'avantage, c'est que tu as pu faire quand même du distanciel. Et comme quoi, que même si on est dyslexique et dysorthographique, on peut faire énormément de distanciel.
Tout à fait. J'en suis la preuve, quoi, exactement. Le distanciel, c'est pas un frein. Il faut pas dire qu'on a forcément besoin de l'humain aussi. Le numérique, ça peut marcher. C'est quelque chose en quel j'en suis persuadée.
Je pense qu'on peut combiner les deux. Alors maintenant, on va parler de la compensation. Comme ça, tu fais un un lien. Là, quand on va parler de la compensation idéale. Donc la compensation idéale, c'est qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour qu'un dyslexique ou un dysorthographique ait toutes les compensations pour que tout excelle. Mmh. Et puis la compensation raisonnable qui fait qu'en fin de compte, on devient créatif de sa compensation. Parce que des fois, on nous donne beaucoup de choses, mais ces compensations-là, comme le tiers-temps, comme l'open dyslexie, mmh. Et pourtant, ce n'est pas des compensations pour certains idéales.
Non, il y en a
et donc, le fait d'avoir des compensations raisonnables, je pense qu'on devient créatif, en tout cas, de nous-mêmes, et ça évite la catégorisation de la compensation.
Exactement. Bah, je pense que toute personne qui est dyslexie ou dysorthographie, je pense qu'à ça... qu'il y a chacun ses choix, on va dire. Parce que moi, je sais que j'ai des compensations auxquelles que d'autres personnes n'auront pas forcément. Donc, je pense, de mon point de vue à moi, c'est différent dans le sens où... je suis fatiguée.
Non, c'est pas grave, Michette.
Je
vais mettre...
Non, ça va.
Je vais juste mettre... Ok, je vais pas la pause, tu sais pourquoi, parce qu'après, je saurais pas où elle
est. Laisse-le là.
Vas-y, on est presque à la fin. On est presque à la dernière question.
Ok.
On est presque à la fin. C'est ça, la fatigabilité.
Oh, désolée.
Pourquoi tu veux être désolée de ça? Tu vas pas être désolée. Tu t'es arrivée quelle heure aujourd'hui?
Je crois 9h. Hein. Frère, tu m'as parlé vers 11h.
Tu
m'as envoyé un message vers
11h. J'ai dormi, je me suis rendormie.
Hein. J'arrivais plus à dormir. D'accord. Moi, j'arrive pas à faire ça.
Apprends à faire une micro-sieste. Forcément.
Je dors beaucoup.
Micro-sieste.
Bref.
Alors, on revient sur la compensation idéale
ouais,
et raisonnable. Qu'est-ce que, pour toi, la compensation idéale et la compensation raisonnable?
La compensation raisonnable, je pense, c'est une compensation qui n'est pas limitée. Dans le sens où on peut avoir plusieurs adaptations, plusieurs compensations, que ça soit numérique ou humain. Quand je dis numérique, les adaptations sur ordinateur, humain, bah, des référents, des personnes qui sont là à l'écoute, des psychologues, enfin, c'est ça.
C'est oui. Ça. Et est-ce que tu penses que la compensation raisonnable te permet de devenir créatif, puisque... Ça veut dire que tu n'as pas toutes les compensations, mais tu mets les compensations qui te conviennent à toi.
Exactement. Toute personne a sa façon de voir de sa propre compensation. Enfin, moi, j'ai ma propre compensation, comme une autre personne dyslexie peut avoir sa compensation à elle, qui est différente de la mienne. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est ça, les difficultés que les gens qui comprennent pas, en fait. Forcément, ils disent dyslexie, ben, on a tous les mêmes adaptations, on a tous les mêmes compensations, et voilà, on est catégorisé comme ça. Alors que dyslexie, on a tous une forme de dyslexie qui est différente, et c'est...
Avec des variations.
Ouais, avec toutes variations.
Donc, c'est pour ça que c'était moi, dans le sujet, en tout cas, que j'ai mis dans le cadre de mon mémoire et la question que je me posais. Dans la compensation idéale, c'est vrai qu'on a un panel de compensations qu'on nous propose. Mmh. Et en fait, je trouve que dans l'accessibilité et la compensation raisonnable, on a la possibilité de faire le choix de nos compensations et en même temps de ne pas imposer à notre professeur ou à notre environnement. Mmh. Puisque quand tu as travaillé par exemple avec Léa, tu pouvais mettre ta police adaptée à ton, à ton environnement de travail à toi sans lui imposer
ma police.
Ta police. Et donc là, on est dans la compensation raisonnable sans imposer aux gens ces adaptations. Quoi.
Exactement. Et même comme tu disais ça, moi, au travail, je sais que quand je fais des PowerPoint, bah, j'utilise la police. Mais quand je le projette, les autres personnes le voient d'une autre police. Et ils ne connaissaient pas ça, ce côté compensation raisonnable.
Ouais.
Et je leur ai montré, ils étaient vraiment étonnés dans le sens où ils ne pensaient pas comme ça, en fait. Ils pensaient qu'on allait les imposer nos adaptations et finalement, non.
D'accord. Et alors, on va être dans les dernières questions, parce que je sais que tu es fatiguée et je te remercie de tenir sous cette chaleur quand même. Parce qu'on ne pense pas, mais il y a un éclairage derrière quand même. Un, deux, trois, on a trois éclairs. Voilà. Alors voilà, quand tu as pu bénéficier en tout cas de l'accompagnement de Full Inclusion, ce programme Solidarité Université, on a pu constater que les formations... Tu as déjà eu des formations Antidote,
oui.
Des formations Dragon. Voilà, bon, je ne partage pas la même vision, en tout cas, de certains qu'on y forme. Et je pense que si tu t'es retrouvé à demander un autre type de formation, c'est parce qu'en fait, on ne prend pas. Il y a une pédagogie de formation qui doit être différente pour cette nouvelle génération. Je pense, parce que c'est une sensibilisation interactive. On peut faire en distanciel ou en présentiel, mais en tout cas, c'est d'être interactif.
C'est ça.
Et je trouve qu'en tout cas, les professionnels sont en situation d'illectronisme et ils ne connaissent pas assez tous les outils, en tout cas,
qui pourraient vous
soulager, en tout cas.
Oui, exactement. Comme je disais, les personnes référents, souvent, ils n'ont pas les outils. Ils vont nous mettre... ils vont nous dire, ah, t'es dyslexie, ok, bon, je te donne Antidote, Dragon, basta. Il n'y a pas le côté, ils vont nous former derrière, ils vont essayer de nous montrer d'autres méthodologies de travail. Par exemple, il y a des extensions, il y a plein de choses sur Word auxquelles on ne nous montre pas, on ne nous forme pas, qu'au lieu d'acheter des Dragon à 800€, alors que ça revient au même si on met des extensions sur Google Chrome. Après, je ne fais pas de la pub et tout, mais... mais c'est la vérité, quand j'ai vu qu'on pouvait faire énormément de choses sur des applications de Google Chrome, je me suis dit, mais pourquoi acheter du Dragon? Ça revient à la même chose, juste c'est peut-être en anglais, mais après on peut traduire, on peut transformer la version en français, mais c'est quelque chose qui...
C'est vrai que Google Chrome est un des interfaces de navigateurs où beaucoup de développeurs, voilà, c'est des développeurs qui sont souvent passionnés, et ce n'est pas des outils en plus numériques handicap qui sont orientés, c'est souvent des outils juste pour améliorer le confort.
Et tout le monde peut l'utiliser.
Et tout le monde peut l'utiliser, donc on n'est pas dans la stigmatisation.
Exactement.
Et en même temps, toi, tu peux les montrer à tes amis, à tes collègues, et ça te fait développer en tout cas une compétence supplémentaire.
Exactement.
Et donc, que ça stigmatise en tout cas moins.
Moi, non, pas du tout, au contraire. Moi, je peux travailler dessus comme ma collègue à côté, elle peut travailler avec. Il n'y a pas le côté, bon, toi, tu as de travailler avec parce que tu es en situation de handicap. C'est ça qui me plaît dans les extensions chez Google Chrome.
Voilà. Puis on a l'Ocean, on a tout ça. Ouais. Il y a pas mal d'outils.
Il y a beaucoup d'outils.
Et puis en même temps, vous n'êtes plus dans des outils stigmatisants ou des outils trop scolaires qui font que vous êtes éloigné du travail, parce que les outils de travail, c'est vrai que chaque filière a son fonctionnement, bien que maintenant toutes les entreprises sont très digitalisées et travaillent en collaboratif. Et donc, toi, ça te permet en tout cas de pouvoir
travailler avec
eux sans imposer ton handicap.
Exactement.
Tout en gardant ton confort et ton bien-être. Ok. Et donc, tu penses que les professionnels devraient être plus formés, les professeurs, les référents handicap.
Oui, les professeurs, les référents handicap, donner des formations en entreprise. Même si c'est des salariés, on va dire, des salariés, toute personne, enfin, parce que dans les entreprises, il y a à peu près 6% de... Les entreprises doivent prendre 6% des personnes en situation de handicap, donc je pense que même l'employeur doit être formé au numérique, à l'accessibilité, surtout à l'handicap, à être formé sur les outils qu'on leur montre, qui est souvent... qui doivent mettre dans les ordinateurs d'entreprise, comme ça ne stigmatise pas la personne.
D'accord. Et ben, je te remercie pour tous ces éléments.
Merci.
Je te poserai juste une dernière question sur ton avis sur l'illettrisme et l'électronisme. Je le considère comme un handicap social. Qu'en penses-tu ?
Social ? Dans quel sens ? Parce que l'illettrisme, je pense que ça peut être une personne qui le ressent. Et après, elle y touche plusieurs personnes.
Mais alors, l'électronisme, c'est un peu l'illettrisme du numérique. Et les personnes qui sont en illettrisme, c'est ceux qui ont des difficultés à la lecture et à l'écriture, qui n'ont pas acquéri les bases du français, des maths, du calcul, tout ça. Et l'électronisme, c'est plutôt le numérique. Certains savent envoyer un mail, mais d'autres, par exemple, ne savent pas envoyer de mail, ne savent pas prendre un rendez-vous chez le docteur. Puis des fois même, utiliser un logiciel, ça peut être certains niveaux, tout à fait degré. Et moi, je considère ça comme un handicap social, puisque c'est un handicap dans la société, puisqu'on a un impact.
Oui, il y a beaucoup de personnes.
Et donc, je veux savoir ton avis sur cette dernière question.
Je pense que c'est un peu, on va dire, à cause de l'école, dans le sens où on ne nous a pas formés depuis tout petit au numérique, parce que je sais que mes parents, eux, je leur dis envoie-moi un mail, ils ne le sauront pas. Alors que nous, notre nouvelle génération, on sait, on a été formés pour ça. Et je pense dès le début, bah, c'est en fonction de la génération aussi qui fait qu'aujourd'hui, nos anciens ne savent pas forcément faire tout ce que nous on fait aujourd'hui. Et ce serait bien de les former, je sais pas, au Pôle emploi ou faire des formations grâce à leur compte CPF et tout. Et ça, c'est très enrichissant, je pense.
Et l'électrice, moi.
Et l'électrice, bah, faire des ateliers, enfin, même avec des petits-enfants, mélanger les générations, enfin, ce serait bien.
De la compensation,
oui, par exemple. C'est ça, mettre leur montrer comment un dyslexie voit les choses, ou comment, enfin, mélanger l'handicap et aussi la jeunesse et l'ancienne génération, et ce serait bien de faire des ateliers comme ça.
Ouais. Ok, parfait. Et bien, j'ai tous les éléments. Okay. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la rentrée?
Que je réussisse mes études, que j'ai un MacBook.
Ça
je souhaiterais avoir mon MacBook.
On va mettre une annonce.
Si ouais, faites une cagnotte LinkedIn. Une cagnotte
Litchi.
Ouais, Litchi.
Litchi. Pour, voilà. Dano souhaiterait un MacBook. Si vous êtes une entreprise et que vous renouvelez votre parc MacBook,
je suis la bienvenue.
Alors, surtout si vous avez celui-là avec la touch bar, ce sera encore le top de chez Top, parce qu'il ne se fait plus. Donc, en tout cas, ce serait génial de l'envoyer à Full Inclusion, qui le